Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, je vais conclure l'étude du quatrième commandement. À partir de la semaine prochaine, nous poursuivrons celle des autres commandements. Le jour du repos fut établi par Dieu, non pour le juif, mais pour l'homme, comme nous l'avons vu. Ce matin, nous allons examiner les derniers arguments présentés par ceux qui souhaitent abolir le jour du repos fixé par Dieu, au lendemain de la création d'Adam et Ève, et qui ferme les yeux sur ce passage des Écritures. Tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. On voudrait nous faire croire que Dieu a cloué la loi sur la croix lorsque le Christ fut crucifié. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul écrit au sujet du Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Qu'est-ce que l'acte des ordonnances? S'agit-il bien de la loi dans ce passage? Si c'est le cas, pourquoi l'apôtre Paul écrit-il « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés ». Il ajoute même « Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression ». Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Sans loi, le péché est mort. Ces quelques passages prouvent d'une manière irréfutable que la loi, qui est éternelle, ne peut pas avoir été abolie, car dans ce cas, l'homme ne pourrait plus pécher, et ainsi, depuis la mort du Christ, nous n'aurions plus besoin d'un sauveur, alors que Paul et les autres apôtres enseignent le contraire. Mais alors, de quel acte s'agit-il? L'expression l'acte dont les ordonnances nous condamnaient est traduite du grec kérographon tois dogmazin. Elle se réfère à ce qui pourrait être une note de créance manuscrite établissant la liste des sommes prêtées. Il s'agit d'une reconnaissance de dette, d'un engagement, d'une obligation. C'est un peu l'ardoise de l'épicier ou du cabaretier. L'acte est donc une note manuscrite par laquelle on reconnaît que de l'argent a été prêté, et par conséquent, qu'il doit être remboursé. C'est une reconnaissance de dette. Ne perdons pas de vue que nous avons tous une dette envers Dieu à cause de nos péchés. C'est justement là le sens de ces mots. Qu'avaient fait les Colossiens pour avoir une dette envers Dieu? Paul répond, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le Christ leur avait apporté la grâce divine, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui avait été effacé étaient toutes les offenses commises en transgressant la loi, en suivant les voies du monde et en laissant la nature humaine sans frein. Lorsque le Christ répandit son sang, il nous a justifiés. Il a effacé nos péchés en les payant de sa propre vie. Pierre le confirme en précisant les conditions que le pécheur doit remplir pour obtenir ce pardon non mérité. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous devons donc reconnaître nos fautes devant Dieu. Voici notre reconnaissance de dette. Dans son fameux psaume où il fait preuve d'une repentance profonde, David écrit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » L'Éternel a inspiré le prophète Ésaïe d'écrire « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, la reconnaissance de notre culpabilité, fut cloué à la croix en même temps que le Christ. L'apôtre Paul écrit « Soyez réconciliés avec Dieu. » Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Christ a porté tous nos péchés, et il est devenu le sacrifice d'expiation pour tous. Autrement dit, il prit tous nos péchés sur lui-même. Paul ajoute, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Remarquez bien que le Christ ne nous a pas rachetés de la loi, mais de la malédiction de la loi, de l'amende du péché. Lorsque nous péchons, nous amenons sur nous l'amende du péché, et cette amende, ce salaire, est la malédiction que l'on doit supporter à la suite de transgressions de la loi, c'est la mort éternelle. Sans l'intervention du Christ, sans son sacrifice, nous serions tous voués à la mort éternelle. Matthieu, chapitre 12, verset 8, nous dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et un livre qui s'oppose à la loi et au sabbat fait le commentaire suivant. Jésus a donc parfaitement le droit de nous donner un jour nouveau en vue de l'adoration. C'est exact. Jésus aurait pu nous donner un autre jour que le samedi, mais il ne l'a pas fait. Nulle part dans les Écritures, vous ne trouverez un tel changement. Cette affirmation est donc gratuite. D'ailleurs, même après la mort du Christ, les apôtres n'ont jamais transféré le jour du repos au dimanche, car tous savaient qu'à l'exception de la loi des sacrifices, qui était momentanée, valable uniquement jusqu'à la mort du Sauveur, tous savaient que la loi est immuable. Un autre passage cité, et qui est souvent mal compris, se situe dans l'évangile de Jean. Un homme était malade depuis 38 ans. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Certaines personnes s'étonnent de ce que cela se soit passé lors du sabbat. Or, le même Seigneur avait dit dans l'Ancien Testament, « Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage. » Le lit de cet homme guéri par le Christ est-il un fardeau ? Néhémie, en constatant que l'on vendait et achetait des marchandises à Jérusalem le jour du sabbat, déclara, puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. L'interdiction mentionnée dans Jérémie, ainsi que dans Néhémie, se rapporte bien à un fardeau. André Chouraki traduit ce passage de la façon suivante. « Ne faites pas sortir un chargement de vos maisons le jour du Shabbat. » Le mot « chargement » ou « fardeau » est traduit de l'hébreu « massa » signifiant « un fardeau, une charge, un transport de marchandises », tandis que le lit, dont il est question dans l'évangile de Jean, est traduit de « trabaton » signifiant « une paillasse, un grabat ». C'est le lit du pauvre. Il n'y a aucune comparaison possible entre une paillasse et un fardeau, un chargement de marchandises. Enfin, un argument que l'on veut décisif est qu'il n'existerait aucune référence dans les divers épîtres au sujet du quatrième commandement. On compare l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. On trouve des passages dans le Nouveau Testament qui font allusion à tous les commandements, sauf au quatrième, dit-on. Le sabbat est pourtant bien mentionné dans le Nouveau Testament. Vous le trouverez dans les chapitres 3 et 4 de l'épître que Paul adresse aux Hébreux, où il écrit « Aujourd'hui, il s'agit donc bien d'un message pour nous tous en ce jour, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Dans ce passage, le mot « repos » est traduit du grec « kataposis », signifiant « repos », mais sous forme de demeure, de résidence, soit la terre promise ou le millénaire. Tel qu'utilisé, il signifie un repos pour l'ancien Israël après les rigueurs du désert et l'entrée dans la terre promise. Dans la dernière partie du chapitre 3, Paul explique que les Israélites qui vécurent à l'époque de Moïse ne purent entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance. Voilà pourquoi, au chapitre 4, il exhorte les chrétiens à ne pas perdre leur repos, leur salut, le royaume de Dieu. Voilà le sens de Kataposis. Paul poursuit. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans leur repos, kataposis millénaire. Selon qu'il dit à l'ancien Israël, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est-à-dire kataposis, la terre promise, qui était une préfiguration du millénaire. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Le septième jour de la création préfigure le millénaire qui débutera après les 6 jours ou 6 000 ans accordés à l'homme. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce jour que Dieu fixe est le septième jour, le sabbat hebdomadaire qui préfigure l'entrée dans le royaume de Dieu. Si nous méprisons et profanons le premier, le sabbat hebdomadaire, nous perdrons automatiquement le second, le royaume de Dieu. Paul poursuit, car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Repos de sabbat est traduit ici du grec sabbaptismos, qui a une signification différente de kataposis. Il se rapporte à l'observance du sabbat hebdomadaire du septième jour de la semaine, samedi. André Chouraki a traduit ce passage comme suit, « Donc le Shabbat est laissé au peuple d'Élohim. » D'autres versions traduisent comme ceci. « Ainsi, un repos semblable au repos de Dieu, le septième jour, reste offert au peuple de Dieu. » Ceci est extrait de la Bible en français courant, édition 1982. Nous savons par le livre de la Genèse que le repos de Dieu fut le septième jour que nous appelons de nos jours samedi. Et c'est le jour qui suivit la création d'Adam et Ève. La Bible traduite par le cardinal Liénard, édition 1951, déclare « Il y a donc un repos sacré réservé au peuple de Dieu. Or, ce qui est sacré, c'est ce que Dieu a sanctifié, et ce qui est sanctifié, c'est le septième jour de la semaine. » La version nouvelle des moines de Maretsu donne ce qui suit. « Il reste donc pour le peuple de Dieu un repos sabbatique. » Ce repos est donc celui du sabbat, du septième jour de la semaine. Quant à la Bible de Jérusalem, édition 1988, elle imprime, c'est donc qu'un repos, celui du septième jour, est réservé au peuple de Dieu. En langage clair, ce verset nous confirme que le sabbat du septième jour de la semaine existe encore aujourd'hui, comme hier, pour le peuple de Dieu. Toutes ces déclarations ne laissent aucun doute et confirment qu'un commandement direct est bien adressé à l'Église du Nouveau Testament pour le respect et l'observance du sabbat. Contrairement à ce que l'on veut nous faire croire pour défendre l'observance du dimanche, jour ordinaire que Dieu n'a jamais sanctifié, il est bien question du sabbat dans le Nouveau Testament. Quoi de plus normal, puisque les 10 commandements ont été établis pour toujours.